au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie, vous qui écoutez nos émissions, les téléchargez, vous qui lisez les textes qui les accompagnent et qui les imprimez. Vous le savez, l'écrit reste indispensable à l'information. Sur une radio internet, proposer du texte, c'est enrichir les propos de nos invités. Et nul d'entre vous ne s'en plaint, me semble-t-il. Dans cette émission, nous allons, avec mon invité, évoquer la presse. Je ne dis pas la presse écrite, ce serait un pléonasme. Mon invité est Jean Miot, un homme qui connaît la presse dans toutes ses dimensions, dans tous ses rouages, et qui lui porte une affection totale. À preuve, il vient de publier un ouvrage intitulé « La passion de la presse » aux éditions du Rocher. Jean Miot, bonjour.
Bonjour et merci.
Merci à vous d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie. Je dis que vous aimez la presse, je crois que vous avez commencé très jeune dans la presse.
Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Bon.
effectivement, j'avais 16 ans quand j'usais mes fonds de culotte le jeudi et le dimanche à l'éclair du Berry.
L'éclair du Berry, alors, donc vous êtes berrichon.
C'est un virus, je suis berrichon et je m'en vante. Je rappelle que je suis le dernier amant de George Sand. Position plus facile à tenir d'ailleurs que celle de mes prédécesseurs. et effectivement, dans ce journal, c'est là où j'ai pris le virus dont on ne guérit jamais.
Voilà.
Vous le savez bien.
Est-ce que dans ces métiers de la presse, on peut dire que vous avez fait tous les métiers? Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans la presse.
Alors, je m'enorgueillis en effet d'avoir fait tout, et j'ai un espoir. Alors, j'ai été journaliste et je prétends l'être encore.
Vous êtes encore critique gastronomique, si ma mémoire est bonne.
Pas seulement, j'écris, mais j'écris toujours, notamment dans Valeurs Actuelles, sur des sujets souvent de loisirs et d'art de vivre, au sens large du terme. J'ai été imprimeur, j'ai été éditeur, en tant que patron de... du Figaro et précédemment de quelques journaux de province et d'outre-mer. J'ai été fournisseur, puisqu'en tant que président de l'agence France Presse, j'ai été le fournisseur de la presse, je puis le dire, mondiale, mais rassurez-vous, je ne me prends toujours pas au sérieux. Et j'ai même été distributeur, puisque j'ai récemment encore exercer des fonctions dans un dépôt central de presse. Et mon rêve, je vais vous le confesser, mon rêve serait de terminer ma vie comme kiosquier dans un kiosque à journaux. Là, j'aurais bouclé complètement ma vie d'homme de presse.
D'homme de presse. Donc, vous avez cité quelques grands groupes, évidemment, Le Figaro, l'AFP, mais vous étiez aussi dans d'autres journaux.
J'ai été pendant 30 ans un homme d'Hersant, ce dont je me vante et me félicite, car c'était un homme exceptionnel, j'en parle dans mon livre, bien sûr. Et j'ai donc passé 15 ans de ma vie dans le groupe Hersant, donc 15 ans dans d'innombrables journaux de province, 15 ans au Figaro, dont j'ai été en effet président du conseil de surveillance, tout en étant président. Mes amis qui savent eux aussi que je ne me prends pas au sérieux disent bonjour monsieur les présidents, puisque j'étais à la fois président de la Fédération de la presse française, de la presse parisienne, de l'OJD et du conseil de surveillance du Figaro, et j'ai été également président de l'agence France Presse.
Alors, quand vous titrez votre livre « La passion de la presse », vous utilisez ce mot « passion » dans ses deux sens?
Absolument.
C'est-à-dire amour et souffrance?
Absolument, au sens passionnel et affectif et au sens latin du terme. Car effectivement, il y a aujourd'hui sur une passion de la presse, on appelle ça la crise de la presse, et là-dessus j'aimerais qu'on soit bien clair.
Oui.
Quand on parle de la crise de la presse, on parle de la presse quotidienne. La presse magazine française se porte très bien. Elle a d'innombrables titres. Je rappelle que le groupe Hachette Philippe Aki Média est le premier groupe mondial de presse magazine. Nous sommes les premiers producteurs au monde de presse magazine. En revanche, nous nous traînons au 29e rang dans le monde pour la presse quotidienne.
Pauvre presse quotidienne française. Alors si j'en crois les titres des chapitres de votre livre, elle a été, au fil de l'histoire, tondue et spoliée, évidemment entre 44 et 47, ensanglantée, en état de péché mortel, bâillonnée, livrée en ballon, déchirée, imprimée au fond des tranchées. Elle a explosé, a été soumise à la propagande, elle s'est quelquefois émancipée, s'est emparée de la liberté, a connu des heures de gloire, elle est devenue populaire, elle est renée de ses cendres, elle a connu l'âge d'or, puis elle est redevenue muette, elle a été pourrie, nourrie peut-être par les affaires, elle a sauvé l'honneur, elle a perdu sa suprématie, elle a été réinventée. Bref, la presse, c'est vraiment toute une histoire.
Voilà.
Et c'est une histoire à rebondissement que vous nous racontez, avec ses hauts et ses bas.
Alors, effectivement, ce sont les... Je ne prétends pas avoir fait l'histoire de la presse française. Il y a là un monument qui est celui, en 5 volumes, qui existe déjà. Je prétends avoir fait les histoires de la presse française. Les anecdotes, les grands personnages... ces grands moments de la presse. Alors effectivement, vous énumérez, vous avez lu là mon sommaire, et on reviendra tout à l'heure sur, vous parliez de la spoliation, quand la presse française est tondue et spoliée, parce que ça se rattache justement à la crise, c'est une des explications de la crise,
oui,
de la presse aujourd'hui. Mais si, puisque vous m'y entraînez, allons dans l'ordre chronologique, la presse française, elle démarre en 1631 avec un personnage merveilleux qui est Théophras Renaudot. C'est notre père à tous. Et Renaudot, c'était le Martin Hirsch de Louis XIII. Il était le ministre des pauvres. Il était très proche de. Mais oui, il était très proche de. Il était de Loudun. Il avait rencontré donc Richelieu. C'est Richelieu qui va le présenter à Louis XIII et qui en fait son ministre des pauvres. Et Renaudot va donc créer le premier journal périodique qui s'appelle La Gazette. Et imaginez, 1631, dans la nuit du 29 au 30 mai 1631, dans un local où, d'un côté, parce qu'il était médecin et pharmacien. Alors imaginez, dans la même salle, il y a d'un côté les fioles et les médicaments. On ne se préoccupait pas de prophylaxie dans ce temps-là. Et puis à gauche, il y a la presse. La presse avec les ouvriers, c'est la presse Gutenberg. Hein. Et on va tirer donc ce premier journal, La Gazette. C'était la presse de Gutenberg avec 2 ouvriers. Il y en avait un, celui qui tirait sur la chaîne, vous voyez, qui faisait descendre la presse, qui appuyait la feuille de papier sur les caractères qui avaient été préalablement ancrés. Et celui-là, on l'appelait l'ours, parce qu'il avait ce mouvement perpétuel de balancement comme un ours apprivoisé et puis ou domestiqué. Et puis à côté, il y avait le singe. C'était l'ouvrier qui, lui, galopait pour poser la feuille avant qu'on l'imprime, la retirer, l'accrocher à un fil pour la faire sécher et puis revenir. Et ce mot « ours », vous le connaissez?
Mais oui, justement, ça me rappelait quelque chose.
Et oui, ben c'est l'encadré obligatoire, légal, qu'il doit y avoir dans tout journal, dans lequel il y a le nom du directeur de la publication, responsable donc, et de l'imprimeur. C'est de là que vient le mot « ours ».
Voilà.
Il y a des mots comme ça. Par exemple, savez-vous pourquoi on dit un canard?
Non, je ne sais pas.
Non. Mais... Eh bien, on dit un canard parce qu'au 17e, les colporteurs... qui vendaient à la criée des journaux, ce qu'on appelait des occasionnels. Ils avaient une corne qui faisait coin-coin. Et on descendait dans la rue pour acheter son canard. C'est de là que vient cette formule.
On voit
alors
que vous aimez toutes ces histoires.
Je reviens donc à Renaudot. Et Renaudot donc, va créer ce premier journal. Il va créer l'ANPE. Il est l'inventeur de l'ANPE. Il crée les petites annonces et c'est un personnage extraordinaire. Il est bien sûr sous le contrôle du père Joseph, qui était le conseiller, ce capucin proche de Richelieu. Il a la censure quasi quotidienne de Louis XIII lui-même et de Richelieu. Et pourtant, il va avoir des premiers réflexes de liberté journalistique. C'est la fameuse affaire des possédés de Loudun. où il va défendre Urbain Grandier, ce prêtre de Loudun accusé d'avoir introduit le diable dans le couvent des Ursulines. Il semblerait, après enquête, que Mère Jeanne des Anges lui reprochait surtout de l'avoir un peu négligé et de l'avoir oublié.
Quoi bah, qu'il en soit, psychologique et psychanalytique. Voilà,
et amoureuse. Et quoi qu'il en soit, le malheureux Urbain Grandier va finir sur un bûcher à Loudun. Mais c'est extraordinaire, ce Renaudot, qui est vraiment, nos camarades diraient aujourd'hui, à la solde du pouvoir, va consacrer un numéro entier, et Richelieu et Louis-XIII ne l'empêcheront pas de le faire, pour la défense de son ami Urbain Grandier. C'est la première émancipation. Alors on va arriver effectivement à la période des nouvellistes. On est au XVIIe siècle. D'innombrables petits titres vont fleurir. Et le premier quotidien qui va exister en France s'appelle la Gazette de Paris. Il va paraître le 1er janvier 1777. Et ce journal avait une particularité, c'est qu'il publiait tous les jours la météo. Alors, il va sans dire qu'il s'agissait de la météo de la veille. Mais pendant 40 ans, tous les matins, tous les jours, en page une, il y avait la météo de la veille. Et pour l'anecdote, dans la Gazette de Paris du 15 juillet 1789, il y a la météo du 14 juillet. Je vous la lis.
Alors, oui.
Temps orageux et lourd.
Ah ça, oui.
Louis XVI aurait mieux fait de lire son journal. D'ailleurs, il n'aurait peut-être pas écrit rien dans son journal de bord, souvenez-vous.
Voilà, oui, c'était son mot, en effet.
Voilà. Alors, on va arriver à la période de la... Je résume, bien sûr, on va période à la période de la liberté de la presse. Alors, bon, bah, c'est Mirabeau. Qui est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas une virgule à changer. Desmoulins, il y a Danton, il y a Marat, des personnages extraordinaires comme Hébert, Rivarol qui est un polémiste absolument extraordinaire, qui était fidèle, tout à fait fidèle au roi, celui-là.
Et qui a laissé son nom attaché à la presse.
Et qui a laissé son nom attaché à la presse. Il y a d'ailleurs toujours un titre royaliste, comme il se doit. C'était un personnage avec un talent de polémiste extraordinaire. C'est lui qui a un imprudent qui lui dit un jour « Je vous écrirai demain sans faute ». Il répond « Ne vous gênez pas, écrivez-moi comme à votre ordinaire ». C'est joli. Et il ne manquait pas de culot. Un jour, Louis XVI lui demande, l'interroge sur la conduite à tenir. Et il lui répond simplement « Messire, faites le roi ouais, ». Vous voyez, ça faisait partie de ces polémistes dont on regrette bien l'absence aujourd'hui. Moi, je suis affligé par le parler correct auquel nous sommes condamnés, mais on en reparlera.
Oui, la critique était beaucoup plus libre au XVIIIe
et
au XIXe.
Et le ton, Dieu que la presse était drôle et que les lecteurs s'amusaient.
Et plus dur en même temps, oui.
Alors, sautons quelques années, on arrive à Napoléon. Alors Napoléon, lui, c'est simple, il invente son service de presse.
C'est plus sûr.
C'est quand même plus sérieux. Il a quand même, il connaît bien la presse, il en a édité. D'ailleurs, quand il était en campagne d'Italie, il faisait publier un journal pour expliquer au bon peuple de France ce qu'il faisait, ce qu'il avait l'intention de faire. Et il y a un journal sous Napoléon qui est le seul journal officiel, c'est le Moniteur Universel. Ils sont tous sous contrôle. Et il y a une anecdote sur la versatilité de la presse que vous pouvez, vous en conviendrez, vérifier quasiment tous les jours de nos temps aujourd'hui. Ben, ça se passe au lendemain du débarquement de l'île d'Elbe. On est donc en 1814. Et en manchette du Moniteur, qui avait été journal officiel de l'empereur, on peut lire, puisque Napoléon va entamer ses 100 jours, l'ordre corse a débarqué à Golfe-Juan. Le lendemain, le cannibale marche sur Grasse. 3 jours plus tard, l'usurpateur est entré à Grenoble, suivi de Napoléon marche sur Fontainebleau. Et le 21 mars, Sa Majesté impériale est attendue demain à Paris. Vous notez l'admirable crescendo. Et alors, on a fait une petite brève, ce qu'on appelle une brève hein, dans notre jargon, c'est-à-dire ces 5 lignes, pour dire « Le roi et les princes sont partis dans la nuit ». Voilà. Cette versatilité, vous savez, il y a un théorème de Jean-François Kahn que je cite volontiers et qui dit, en parlant de nous, les journalistes, « D'abord, il lèche, ensuite, il lâche et enfin, il lynche ».
C'est très dur.
C'est très dur, mais c'est hélas vrai.
Donc, plein de personnages, une galerie de portraits absolument inouïs dans votre livre, parce que c'est ça qui vous plaît, c'est de raconter des histoires, des anecdotes.
Le quatrième pouvoir. Vous savez que le quatrième pouvoir, c'est une expression qui rentre dans le vocabulaire seulement en 1830. C'est un royaliste qui s'appelait Salaberry, qui, au cours d'un débat parlementaire, va dire, attention, il y a maintenant un nouveau pouvoir que vous ne connaissez pas, qui est le quatrième pouvoir, c'est celui de la presse. Et effectivement, les Trois Glorieuses de 1830, la Révolution de 48, c'est la première fois que la presse va inspirer une révolte. C'est l'époque, pardonnez-moi, je reviens à mes amours berrichonne, où Henri de Latouche, qui est un berrichon lui aussi, qui est le patron du Figaro, va embaucher une pigiste qui s'appelle Georges Sand. Hein.
Et bon choix.
Bon choix, bien sûr. Et 1840, c'est là aussi à l'époque où Charles Havas va créer cette agence qui aujourd'hui s'appelle l'Agence France-Presse. Il était le premier à créer une agence d'information. Le télégraphe Chape commence à exister, mais à ce moment-là, tout simplement, les dépêches, elles viennent par pigeon voyageur pour avoir les nouvelles de la presse belge. On les recevait à Paris à midi et les pigeons arrivaient de Londres à 15h avec les informations de la presse anglaise, vous voyez. Et c'est là où on va arriver à un des grands personnages de la presse, qui est Émile de Girardin, parce que ça, c'est celui qui a tout inventé. D'abord, il a une idée de génie. Au départ, déjà, il crée un petit journal qui s'appelle Le Voleur. Alors, Le Voleur, c'était tout simple, il découpait des articles dans différents journaux français et étrangers, et il les publiait, en citant, bien sûr, et avec les références. Il a inventé Courrier International les autres.
Une revue de presse, en tout cas.
Et ce qu'il y a surtout, c'est lui qui va créer le journal, qui va le premier porter le nom d'ailleurs de l'outil, qui s'appelle La Presse. Et il va avoir une idée de génie. Il dit, maintenant, moi, mon journal, je le vends 2 fois moins cher que les autres. Scandale, bien sûr, révolution. Et il dit, mais c'est la publicité qui va payer pour les lecteurs. Et il invente la publicité. Et il va être le premier à donner à la presse sa dimension industrielle. C'est vraiment un des personnages les plus importants de l'histoire de la presse. Il avait du génie, il savait s'entourer. Il avait avec lui un jeune ouvrier qui voyait travailler comme ça sur les machines en permanence, et qui s'appelait Marinoni. Et puis ce Marinoni a une idée de génie. C'est de faire en sorte qu'on imprime non plus verticalement les journaux, mais en ligne. Et il invente la rotative. Et la marque Marinoni, d'ailleurs, a existé jusqu'en 1970-80. Il y a d'ailleurs dans l'usine qui a été rachetée depuis par des Américains une place Marinoni à Montataire. Et véritablement, ce Girardin a tout inventé. Il invente les abonnements avec prime. Aujourd'hui, on offre un DVD. À l'époque, on va voir ça également sous Le Figaro, sous Villemezan. Villemezan, pour encourager ses lecteurs à s'abonner, offrait une douzaine de mandarines. On est dans les années 1800. Une douzaine de mandarines, pourquoi ? Parce que les mandarines, à l'époque, étaient un produit de luxe extraordinaire. Et ça m'a beaucoup amusé en retrouvant cette anecdote, puisque j'ai vécu dans les années 1980, l'époque où Robert Hersan a lancé le portage à domicile. Eh bien, pour encourager nos lecteurs à s'abonner, on leur offrait un croissant au beurre.
Le matin, au petit déjeuner.
Mais comme quoi, on n'a rien inventé.
Voilà, Girardin avait déjà inventé
tout cela avant. Voilà, je poursuis
on
là.
On pourrait effectivement poursuivre cette galerie de portraits très loin.
Sous Badinguet, Sous Badinguet, la presse est de nouveau rebâillonnée. La liberté de la presse, c'est comme la mer.
Ça va bien.
Sans cesse recommencer. Et puis, il y a le développement de la presse populaire. C'est à partir de 1860, avec des personnages étonnants, comme Nefzer, qui, lui, va créer Le Temps, ce journal qui va durer jusqu'en 1944. Ce journal avec le titre en gothique, Villemezan, je viens de parler. C'est le moment où le télégraphe va être installé entre le câble sous-marin entre l'Europe et les États-Unis, le chemin de fer. Arrive un personnage, Moïse Millot, extraordinaire, qui va réinventer, il invente le marketing, si j'ose dire, avec des opérations de publicité hallucinantes. Le jour où il lance le journal, il avait inventé les messageries. Moïse Millot a été son premier journal, c'est amusant, s'appelait Le Lutin. Et dans Le Lutin avait une particularité, c'est qu'il y avait des nécrologies presque tous les jours, et chaque nécrologie se terminait par cette phrase: le mort était soigné par le docteur, avec le nom
oui,
du docteur.
C'est une drôle de publicité.
Et le conseil de l'ordre des médecins et les médecins eux-mêmes sont venus le menacer de 1000 morts. Et il n'a jamais cédé. Il considérait que ce n'était pas de la diffamation, c'était de l'information. Le défunt était soigné par le docteur Intel. On a eu beau le menacer de tous les maux, il a toujours continué de faire ça. Alors c'est quand même lui, après Moïse Millot, qui va racheter la presse et puis qui va lancer le petit journal. La presse et le petit journal, c'est le début de l'âge d'or.
La presse populaire, dire, oui, absolument.
La presse, c'était le titre, La Presse, créée par Girardin et qu'il a racheté. Là, il commence à atteindre des 400 000 exemplaires de vente.
Jean Miot, je vous propose qu'on marque une petite pause dans cette histoire et ces histoires de la presse et on se retrouve dans un court instant.
Elle se cache place Fürstenberg à Paris. Elle est la demeure de l'un des plus grands artistes peintres de notre temps, l'artistique demeure du peintre Delacroix. Une émission en libre écoute sur Canal Académie. Retrouvez un atelier fabuleux au cœur de Paris et plongez dans l'univers de l'homme qui fut membre de l'Académie des Beaux-Arts dès 1857.
Retour dans notre studio avec mon invité Jean Miot et nous parlons de son ouvrage « La passion de la presse » paru aux éditions du Rocher. Alors Jean Miot, vous nous avez laissé entendre tout à l'heure qu'on pourrait peut-être comprendre comment la crise actuelle de la presse et la situation aujourd'hui difficile de la presse, et de la presse quotidienne, entendons-nous bien, est au fond héritière de ce qui s'est passé pendant la guerre.
Oui, vous sautez deux chapitres, vous me pardonnerez, d'y revenir un instant. Il y a quand même des grands moments. Nous étions quittés tout à l'heure au moment
sur Moïse
où l'apogée
Millot.
Sur Millot. On arrive là à un moment exceptionnel et on ne peut pas le sauter, c'est Jules Ferry. Car l'apogée de la presse française, c'est 1900-1914. Jules Ferry, c'est bien sûr la loi sur la presse, défense d'afficher. 29 juillet 1881, et puis c'est surtout la scolarité obligatoire. Et 1900-1914, c'est une période où jamais plus la presse française ne connaîtra ce succès avec des tirages qui dépassent les millions d'exemplaires. C'est la génération Jules Ferry. Jusqu'à présent, on lisait souvent le journal dans les villages, dans nos campagnes. Là, maintenant, tout le monde sait lire. C'est pour ça que je commence mon chapitre en disant « Au secours, Jules Ferry revient. 17% de nos enfants ne maîtrisent pas la lecture en sortant de l'école. » Et c'est vrai que Jules Ferry est le père de cet apogée. On va arriver à une période, évidemment, dramatique qui est celle de la guerre 14-18, ce qu'on appelle la grande muette, qui commence quand même par cette anecdote amusante du patron du Figaro, M. Calmette, qui est à l'époque attaqué régulièrement M. Caillot. M. Caillot était le ministre des Finances.
Ça ne va pas lui porter chance.
Et M. Caillot, le Figaro à l'époque ne faisait pas dans la dentelle. Il avait publié des lettres intimes du ministre Caillot à sa petite amie, qui signait Monjos, s'appelait Joseph. Et un jour arrive une dame très élégante au Figaro, qui était rue Drouot à l'époque. Un huissier la conduit jusqu'au bureau de Calmette et elle rentre. À l'époque, les dames portaient des manchons. Et dans son manchon, elle avait glissé un Browning qu'elle venait d'acheter chez Gastine Renette. Et elle sort son Browning et elle dit à M. Calmette: « Vous savez pourquoi je viens ?» Et bam ! Elle tire et elle tue sur le coup le malheureux Calmette. L'huissier se précipite pour la désarmer. Elle dit: « Ne me touchez pas, je suis une dame. » Et elle dira... Alors elle va être sauvée, puisque ça se passe à la veille de la déclaration de guerre. Et dans la folie, dans l'angoisse de la déclaration, elle va être finalement acquittée. Elle a vu ce joli mot en voyant l'objet du délit qu'on lui présentait. Elle disait: « Vous savez, en parlant du Browning, ces petites choses-là, ça part tout seul. » Voilà. Dans le même temps, voilà. Je dirais que M. Villain, qui avait assassiné Jaurès, sera lui aussi dans l'euphorie de la fin de la guerre. Lui aussi acquitté, mais la justice le rattrapera, puisqu'il mourra assassiné, à juste raison, si je puis dire, pendant la guerre d'Espagne. Alors, pendant cette période, 14-18, il y a une chose extraordinaire, c'est que dans les tranchées, les poilus éditent des journaux. Imaginez dans ces tranchées, entre deux attaques, dans la boue, dans le sang, les blessés, avec des vieilles Ronéo, avec de l'alcool, avec des Ronéo à manivelle, ils vont tirer des journaux. Ça s'appelle le crapouillot, ça s'appelle le voltigeur, le poilu, le petit colonial. C'est une presse absolument prodigieuse qui va, avec des grands noms, hein, Francis Carcot, Dorgelès, Apollinaire. Apollinaire écrivait dans ses journaux, il est blessé à la tête malheureusement en 1916 et le poète assassiné va mourir malheureusement un petit peu avant l'armistice. Alors la presse renaît de ses cendres entre 1920 et 1940 et... C'est là qu'apparaît la radio, l'automobile. Il y a là des développements extraordinaires. Il y a des personnages aussi qui font leur apparition, comme Coty, le François Coty.
Le parfumeur.
Le parfumeur, un étrange personnage qui va conduire le Figaro à la faillite, d'ailleurs, pratiquement. Et puis surtout Prouvot. Alors Prouvot, lui, est un génie de la presse. C'est lui surtout qui vendra le Figaro à Robert Hersant. Mais Prouvot était un des grands, grands patrons de la presse. Il va comprendre que l'image devient absolument indispensable dans nos journaux.
Il a créé Paris Match.
Il est créé Paris Match. Oui. Et c'est la grande époque des affaires, l'affaire Stavisky, l'affaire Martano, vous savez, la banquière, l'affaire Salengro. Je répète, Dieu que la presse était belle dans ce temps-là, où on s'insultait d'un journal à l'autre, où il y avait une tonalité, on ne s'embarrassait pas dans ce temps-là du politiquement correct. Et je pense que les lecteurs y prenaient un grand plaisir.
Oui, peut-être qu'un affadissement peut expliquer aussi...
C'est une des raisons de la désaffection.
Oui, sûrement.
On arrive à la guerre, là, hélas, où la presse est soumise au contrôle de la propagande Staffel. Et c'est là où on en vient, effectivement, vous évoquiez le problème, à... cette page d'histoire que j'ai tenue à ressortir, parce qu'on l'a un peu trop pudiquement effacée, c'est cette nuit du 20 au 21 août 1944, où toute la presse française est tondue, est spoliée et nationalisée. C'est une histoire extraordinaire. Au nom des grands idéaux de la résistance, et loin de moi l'idée de les mépriser, on décide que tous les journaux doivent être saisis, quoi qu'ils aient fait. Alors effectivement, il y a eu dans cette période d'authentiques collaborateurs, mais il y a eu surtout en province, des journaux qui ont continué d'exister comme les parce que c'est une nécessité, parce que c'est un service indispensable, comme les boulangers ont continué de faire du pain et comme Charles Trenet a continué d'écrire des chansons. Et ça donne lieu à des scènes hallucinantes. Jean Baillet, qui était le patron de la Dépêche du Midi, revient de son camp de concentration. Miraculeusement, il revient de Neuengamme. Et quand il arrive à Toulouse, on lui dit « Non, monsieur, votre journal a continué de paraître. Donc, vous n'en êtes plus le propriétaire. Il appartient désormais à des groupes de résistants. » Il aurait fallu vérifier, d'ailleurs, il y en avait peut-être qui avaient résisté depuis juillet 44. Le Monde va s'installer dans les locaux, dans les rotatives, dans les caractères gothiques du temps. Pour reparaître à l'époque, toute la presse est mise sous les ordres de l'État, puisque pour reparaître, il faut l'autorisation de paraître. Et cette autorisation n'est accordée que si l'on sait s'aborder 15 jours après l'invasion de la zone sud en 1942. Le Figaro reparaît, puisqu'il s'était d'ailleurs même sabordé avant cela. Mais le temps s'est sabordé 18 jours après l'invasion de la zone sud. Interdiction de reparaître. Et c'est donc une nouvelle équipe, celle du Monde, qui va s'installer dans les locaux, dans les rotatives. D'innombrables journaux de province vont ainsi changer de main et de propriétaire, avec des gens qui n'ont absolument rien investi, n'ont pas eu à investir, n'ont pas eu à s'installer. Et surtout, au nom toujours des grands idéaux de la résistance, on va décider que l'argent et la presse sont deux choses fondamentalement distinctes et qui ne font pas bon ménage. Et on oublie, hélas, un problème essentiel, c'est que la presse, c'est aussi une industrie. Bien sûr, la presse, ce n'est pas une marchandise. C'est un produit de l'esprit, c'est pas une marchandise comme la savonnette ou l'automobile, mais c'est quand même une industrie. Et donc ce mépris de l'argent, le fait que la plupart de ces nouveaux propriétaires n'aient pas eu besoin d'investir, je dirais même ni de gagner de l'argent, fait que cela explique la sous-capitalisation dont la presse française est aujourd'hui la victime. Comparativement à
la presse anglo-saxonne ou allemande.
C'est cette sous-capitalisation qui est ce que j'appelle le péché originel de la presse française. Alors, s'il y a crise aujourd'hui, il y a, espérons que les États généraux vont y remédier.
États généraux qui viennent de se tenir d'ailleurs en janvier 2009, oui,
dont le gouvernement va tirer les conclusions et les leçons et des décisions. La crise, elle a quatre responsables et par conséquent quatre coupables. Le coupable historique, je viens de l'expliquer, c'est 1944, qui explique cette sous-capitalisation, cette absence de fonds propres. Les responsables, c'est aussi les patrons, et je prends ma part de responsabilité, qui, dans l'euphorie des années riches de vaches grasses où la publicité débordait de nos colonnes, on a oublié une règle fondamentale, c'est que le premier marché d'un journal, c'est ses lecteurs et non pas ses annonceurs. Le deuxième coupable, c'est le syndicat du livre CGT, qui a freiné à mort la modernisation des entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un journal, un quotidien, coûte pratiquement le double, en tout cas aujourd'hui même, plus de 30% plus cher qu'un quotidien, que le Times ou la Frankfurter Allgemeine Zeitung, que la distribution des journaux français coûte beaucoup plus cher que la distribution des journaux voisins. Et ça, c'est le poids du syndicat du livre qui a freiné cette modernisation. Et puis le quatrième coupable, et je prends là aussi, j'assume, c'est nous les journalistes.
Oui, qui font les journaux tout de même.
C'est les journalistes qui pendant, depuis toujours, ont continué de faire leur journal sans se préoccuper de l'évolution du lectorat, sans se demander si les lecteurs n'avaient pas envie d'avoir autre chose. Il y en a qui y ont pensé. Je rappelle volontiers dans ce livre que il y a eu un petit groupe, ce que j'appelle les trois mousquetaires, qui y avait, mais qui étaient quatre comme les autres, qui ont inventé un journal, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Info Matin. Un journal qui a duré, parmi les innombrables tentatives de lancement depuis 50 ans, c'est le seul qui ait duré 2 ans et demi, qui au bout de 2 ans et demi vendait encore 70 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et ce journal, malheureusement, a dû s'arrêter pour une raison simple, c'est qu'il ne pouvait être imprimé qu'à Paris. Il fallait donc, pour le transporter dans les grandes villes universitaires notamment, ça coûtait très cher. C'était un journal qui n'avait pris aucun lecteur à la presse traditionnelle, ni au Figaro, ni à Libération, ni au Parisien. Il avait créé un nouveau lectorat. C'était un tout petit format qui tenait dans la poche, avec de la couleur, des articles courts. Vous prenez aujourd'hui les gratuits tels que 20 minutes et Métro, vous retrouvez Info Matin. Ils avaient inventé ce concept.
Oui, les gratuits n'ont pas nui à la presse.
Absolument. C'est totalement faux de dire que les gratuits ont pris des lecteurs. Quand vous êtes lecteur habitué de Libération, du Monde ou de Figaro, vous n'allez pas vous contenter d'un gratuit. Vous pouvez à la rigueur le lire, car il faut le dire, ils sont bien faits.
Oui, il y a de l'information,
mais
ça, bien sûr.
Évidemment, ça ne peut pas correspondre à ce qu'on peut attendre d'un quotidien d'analyse, d'information, de commentaires. Mais ce sont des journaux bien faits et je leur rends cet hommage au risque de choquer. Tout simplement parce que j'ai fait un constat. Il y a 2-3 ans, à l'entrée des lycées et collèges, on voyait les jeunes rentrer avec, dans l'oreille vissée, un téléphone portable ou un MP3. Aujourd'hui, ils rentrent avec 20 minutes et Métro.
Bon, alors
ils
lisent. Il faut s'en réjouir.
Donc merci les gratuits qui ont redonné le goût de la lecture.
Jean Miot, avant de nous quitter, j'aimerais que vous rendiez un hommage à deux de vos amis qui sont deux hommes de la presse, évidemment, Christian Bailly et Louis Powels.
Je vais le faire volontiers, mais avant, on risque encore une fois de vous décevoir.
Mais ça ne me déçoit
pas,
ça.
Me faire gifler. Je voudrais quand même terminer sur une note d'espoir. Est-ce que demain, c'est la question fondamentale, est-ce que demain on lira encore du journal sur du papier ? Ma réponse est d'un optimisme qui va vous paraître peut-être exagéré. Oui, aujourd'hui, la presse française, le journalisme vit un Big Bang absolument hallucinant comme on ne l'a jamais vécu. C'est la révolution Internet. J'ai un théorème qui est celui-ci. L'écran sauvera l'écrit. Je veux dire par là que aujourd'hui,
l'écran propose de l'écrit.
Absolument. Et vous en êtes un exemple
oui.
vivant. Et c'est à l'évidence, ces journaux, ce n'est pas Internet qui menace la presse, c'est la presse qui a besoin d'Internet pour se développer. Et je reste convaincu qu'on aura encore besoin, pour plusieurs générations, je l'espère, de ce support papier. En plus, que sera Internet dans 10 ans ou dans 15 ans ? Même M. Bill Gates reconnaît qu'il n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, Internet est une chance pour la presse qui peut se développer grâce à cela, et à condition, bien entendu, de ne pas dupliquer sur le papier ce qu'on a fait sur le web et réciproquement. Deux personnages merveilleux, Christian Bailly, à qui j'ai dédié ce livre, parce que nous avons travaillé ensemble longtemps sur un projet qui était celui d'un musée de la presse.
Qui n'existe pas en France.
Qui, malheureusement, est un des rares pays industrialisés où il n'y a pas un musée de la presse. Il avait accumulé une collection extraordinaire. Nous avons ensemble recherché un contenant, puisque nous avions le contenu. Malheureusement, il nous a quittés beaucoup trop tôt, il y a une dizaine d'années maintenant. Et après sa mort, le contenu, qui était son immense collection, dans lequel il y avait l'Aurore de Clémenceau, le J'accuse, dans lequel il y avait la Gazette. Cette collection a malheureusement été dispersée après sa mort. Donc nous n'avions pas de contenant, et là nous n'avons plus de contenu. C'est ce qui fait ce regret. Alors je tenais à lui rendre hommage. Et puis, il y a un autre immense personnage, qui est notre ami Louis Powells. Louis Powells, grand écrivain et surtout grand journaliste. C'est à lui que Robert Arsan avait confié ce projet de Figaro Magazine, qui est, disons-le, un des plus grands succès de la presse française de ces 40 dernières années. Figaro Magazine qui va monter jusqu'à 750 000 exemplaires le samedi, avec ce génie, ce talent de Louis, qui avait ce sens inné du lecteur, et puis surtout ce talent de plume, ce sens de la formule. Louis Powells a été un des très grands journalistes qui ait marqué cette histoire.
Et j'ajouterai seulement que vous êtes le président du jury du prix Louis Powells, qui est un prix qui est décerné à un essai chaque année, et que Louis Powells était membre de l'Académie des Beaux-Arts, car il avait aussi un grand sens artistique. Merci Jean Miot de ce panorama de la presse, si on peut dire, bien qu'il ait été un peu rapide, mais il y a beaucoup à raconter. Votre livre « La passion de la presse » est paru aux éditions du Rocher, et si l'on veut s'informer sur la presse française, bien je crois qu'on ne peut pas trouver meilleure source. Merci et à bientôt.
Merci à vous.